Il est 8h.
Comme nous l'avions annoncé, nous entamerons dès ce soir les discussions pour former avec Clémentine Autain et Audrey Pulvar le grand rassemblement des écologistes et de la gauche.
Julien Bayou l'avait annoncé dimanche soir, il l'a confirmé hier, les listes de gauche s'unissent en Île-de-France pour affronter Valérie Pécresse. En PACA, Jean-Laurent Felidia se retire au nom du Front Républicain. État des lieux des dernières tractations avant le second tour de dimanche prochain à suivre dans ce journal. Le procès d'une affaire épouvantable aujourd'hui devant les assises de Loire-Atlantique. L'assassinat de la famille Troadec pour une histoire de trésors de lingots d'or qui n'ont jamais existé. Et puis l'Euro de football, les Bleus assurés de finir au moins parmi les 4 meilleurs 3e avant même leur match contre le Portugal demain. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Loin des préoccupations et des alliances aux élections régionales, ce qui se passe au Mali en ce moment est très préoccupant avec une attaque contre nos soldats hier. Mon invité y était il y a quelques semaines à peine, le grand reporter Régis Le Sommier. Rendez-vous 8h15.
Merci Sonia, à tout à l'heure. On écoute le monde changer.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Lionel Gougelot.
Bonjour à tous. Il ne reste plus que quelques heures aux candidats aux élections régionales pour boucler leur liste, procéder aux dernières tractations en vue du deuxième tour de dimanche prochain. Tout ce petit monde se met donc en ordre de bataille. Bonjour Louis Dragnel.
Bonjour Lionel, bonjour à tous.
Du service politique d'Europe 1. On va faire avec vous, Louis, un état des lieux des principaux points chauds dans les régions. Alors on va commencer avec la région PACA où le Front Républicain se met en place.
Oui, un Front Républicain qui s'est quand même fait dans la douleur car finalement la liste de gauche de Jean-Laurent Felidia se retire pour favoriser la liste conduite par le républicain Renaud Muselier. Et à l'heure où je vous parle, des négociations sont encore en cours entre l'écologiste Jean-Marc Governatori et le même Renaud Muselier, avec un objectif dans cette manœuvre, faire barrage à Thierry Mariani, le candidat Rassemblement National, arrivé en tête du premier tour avec 36% des voix.
En Ile-de-France maintenant, Louis, l'union de la gauche peut-elle challenger, comme on dit, Valérie Pécresse?
Challenger, oui. Gagner, c'est pas sûr, parce que vous l'avez dit, donc le leader écologiste Julien Bayou, ainsi que la candidate du PS Audrey Pulvar et celle de la France Insoumise Clémentine Autain, se sont mis d'accord hier après-midi. Un accord qui prévoit de présenter une seule et même liste au lieu de trois, sous les couleurs de l'Union de la Gauche. A noter que le candidat du Rassemblement National, Jordan Bardella, se maintient sans surprise au deuxième tour. Mais donc, cette volonté de la gauche de s'unir risque de ne pas être suffisant. Et Valérie Pécresse, qui est arrivée en tête avec près de 36% des voix, devrait quand même l'emporter sans doute dimanche prochain.
En Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez doit lui aussi faire face à une union de la gauche.
Oui, dans cette région aussi, la gauche a décidé de s'unir. Les listes Europe Écologie Les Verts, PS et Parti Communiste formeront donc une ligne unique, une liste unique pour le deuxième tour. Mais la situation politique est assez claire et la victoire du président sortant fait peu de doute car Laurent Wauquiez est arrivé très largement en tête du premier tour avec près de 44% des voix.
Alors pour ce qui concerne la région des Hauts-de-France depuis le retrait de la République En Marche, est-ce que c'est un boulevard pour Xavier Bertrand ?
Boulevard, je sais pas, mais en tout cas, sauf coup de théâtre, Xavier Bertrand. Sauf coup de théâtre, Xavier Bertrand devrait quand même l'emporter. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette région est la seule où la gauche est partie unie avant le premier tour. Vous le savez, le candidat de droite, donc Xavier Bertrand, est arrivé en tête du premier tour avec 41% des voix. Mmh. Et donc, face à lui, on retrouvera le candidat du Rassemblement National, Sébastien Chenu, ainsi que Karima Deli, donc la candidate d'Union de la gauche. Pour ce deuxième tour, le seul mouvement visible, et c'est intéressant, c'est la liste La République En Marche, qui a dès hier appelé à voter pour Xavier Bertrand. Il faut le relever d'ailleurs, cette petite coquetterie, cette particularité, car cela signifie qu'Emmanuel Macron, qui vote au Touquet, devrait donc glisser un bulletin Xavier Bertrand dans l'urne dimanche prochain.
Il sera sans doute interpellé sur le sujet, le président de la République, dimanche prochain, effectivement. Merci Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe.
Cette ambiance que vous entendez, c'est une ambiance d'insouciance et c'est la fête de la musique hier soir, place de l'Hôtel de Ville à Paris. Le moins qu'on puisse dire, Lionel, c'est qu'on était très très loin du respect des gestes barrières.
Ouais, même si en théorie les concerts improvisés étaient interdits, des milliers de jeunes se sont malgré tout rassemblés pour s'éclater tout simplement, délivrés du couvre-feu. Alors les forces de l'ordre sont quand même intervenues, il n'y a pas eu d'incident majeur. Une fête de la musique qui a été sérieusement arrosée par les orages hier, notamment à Rennes, à Tours, à Nantes, Nantes où des concerts ont été annulés. Des pluies diluviennes qui se sont abattues également dans la Somme et le département de l'Oise où une personne est portée disparue à Beauvais. Elle est tombée dans la rivière Le Terrain. Les recherches des pompiers n'ont pour l'instant rien donné.
À Bordeaux, ce sont peut-être aussi les orages qui ont fragilisé deux immeubles de trois étages qui se sont effondrés dans la nuit de dimanche à lundi.
Tout un quartier de la vieille ville a été évacué. Écoutez Pierre Urmic, le maire de Bordeaux.
Il y a eu de très forts orages à Bordeaux, des très fortes pluies très denses. Donc c'est des immeubles qui étaient déjà de nature un peu bancale. C'est vrai que ça n'a pas arrangé la situation, ça l'a même contribué à la détériorer. Dès qu'il y en a un qui s'effondre, il y a un effet domino. Il y a une vraie inquiétude parce que 60% des résidences principales de Bordeaux étaient déjà construites avant 1948. Un habitat ancien, souvent très bien entretenu, mais il y a aussi un habitat vétuste, parfois même insalubre. C'est pour ça qu'on a lancé cette expertise pour se doter vraiment d'un outil répertoriant tous ces immeubles.
Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, au micro de Stéphane Place.
Le procès maintenant d'une affaire hors norme qui s'ouvre aujourd'hui devant les assises de Loire-Atlantique, l'assassinat des quatre membres de la famille Troadec.
Un couple et ses deux enfants de 18 et 20 ans tués à leur domicile d'Orvault par un beau-frère parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir volé des lingots d'or. Un trésor en fait imaginaire, un drame qui a traumatisé la région au cœur de cet hiver 2017. Charles Guyard est retourné sur les lieux pour Europe 1.
À Orvault, devant ce banal pavillon au crépi blanc et volet clos, la boîte aux lettres porte toujours les noms de Charlotte, Sébastien, Pascal et Brigitte Troadec. Tous ont pourtant été tués ici en pleine nuit, mi-février 2017, et dans cette rue calme, personne n'avait rien remarqué.
Au mois de février, il fait nuit, donc on n'a rien vu, rien entendu.
Isabelle habite la maison d'à côté. Quelques jours plus tard, des enquêteurs sonneront chez elle.
La police nous a demandé de venir pour être témoin lors des visites.
Vous êtes rentrée dans la maison ?
Bah, pas moi, mais mon mari. Mais il m'a dit, tu as bien fait de ne pas y aller. Visiblement, c'était pas top.
Ce n'est guère mieux. Quelques 300 km plus au nord à Pont-de-Buis, dans le Finistère. Françoise se souvient parfaitement de l'ambiance qui régnait alors dans le coin, ce 17 février 2017.
Je dis, tiens, c'est une drôle d'odeur, mais là, j'ai vu la fumée. Deux colonnes, les corbeaux aussi, plein le champ. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient bien manger ? Ben, il y en avait des milliers et des milliers. On voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal tout de même.
Ce n'est qu'après les aveux de son voisin Hubert Cahuissin que Françoise comprendra qu'en face de chez elle, on a cherché à faire disparaître les corps de la famille Troadec dans cette propriété si immense que les policiers se feront même aider par deux agents municipaux pour passer les lieux au peigne fin. Aujourd'hui, au bout du long chemin de terre qui serpente jusqu'à l'entrée, de hautes herbes bouchent la vue de la maison dont on distingue à peine la toiture fatiguée. Orvault et Pont-de-Buis, Charles Guyard pour Europe 1.
Un procès devant la cour d'assises de Nantes donc qui devrait s'étaler sur deux semaines. Et puis devant les assises de Saône-et-Loire, c'est le procès de Valérie Bacot qui s'est ouvert hier. Une jeune femme qui répond du meurtre de son beau-père violent, devenu son mari avant de la forcer à se prostituer. Celle que l'on surnomme la nouvelle Jacqueline Sauvage a raconté hier l'emprise dont elle avait fait l'objet pendant toutes ces années. Le verdict est attendu la vendredi.
Ouais, et son avocate Nathalie Tomasini était notre invitée il y a tout juste 20 minutes l'interview. Et bien sûr, réécoutable en replay sur europe1.fr. Vous restez avec nous, 8h08, à suivre le grand oral du bac, les premiers candidats bacheliers qui l'ont testé hier, puis le road football, les Bleus déjà qualifiés pour les huitièmes de finale avant leur match demain contre le Portugal. À tout de suite.
La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Lionel Gougelot, le bac 2021. Les lycéens ont testé la nouvelle épreuve du grand oral.
Ouais, c'est la grande nouveauté hein, cette année. Expérience inédite pour les quelques 525 000 candidats bacheliers. Océane Théard est allée hier recueillir les impressions de ceux qui, en quelque sorte, ont essuyé les plâtres de cette épreuve.
Enfin, c'est le mot que l'on pouvait entendre dans la bouche des lycéens à leur sortie d'épreuve. Certains redoutaient particulièrement ces 20 minutes d'oral avec le regard des professeurs braqué sur eux. C'est le cas d'Iclas, 19 ans. Elle est assise sur un banc devant le lycée Jean de la Fontaine à Paris.
Je me suis levée tôt, j'arrivais pas à dormir, voilà. C'était horrible. J'avais l'impression que quoi que je mange, j'allais le revomir. Les profs, ils étaient gentils. Ils m'ont excusé mon hyperventilation à cause du stress. C'est-à-dire que quand je stresse, bah, je meurs, en fait, je respire plus.
Quelques mètres plus loin, Elana sort plus sereine de son épreuve centrée sur les sciences et vie de la Terre, et cela malgré un manque de préparation au cours de l'année.
Là, le seul entraînement qu'on a fait, c'était le 2 juin. On n'avait pas trop le temps avec le confinement qui était au mois de mars. J'ai eu quand même 2 semaines pour encore mieux me préparer, mais ça va, ça a été.
Au programme d'Elana pour les prochains jours, relâcher la pression devant Netflix et attendre les résultats définitifs de Parcoursup en espérant obtenir sa place en faculté de médecine.
Océane Théard, grand oral qui va donc se dérouler jusqu'au 2 juillet prochain pour les bacheliers.
On passe au sport lyonnais avec le road football et des Bleus d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale.
Et cela avant même leur match contre le Portugal demain soir. C'est la conséquence des résultats des rencontres dans les autres poules qualificatives. La France est assurée de finir parmi les 4 meilleurs 3e. Mais donc demain, ce sera France-Portugal, rencontre entre deux nations qui cultivent depuis longtemps des liens très particuliers, Jean-François Pérez.
Oui, c'est l'histoire d'un petit duel entre amis, entre membres d'une même famille parfois. Tout le monde se souvient de Robert Pires, champion du monde 98, dont le père, Antonio, né au Portugal, avait trouvé refuge en France. 20 ans plus tard, un autre pilier de l'équipe de France est un peu gêné aux entournures. C'est Antoine Griezmann, dont la maman, Isabelle, porte le pays de Fernando Pessoa dans son cœur.
Dans la famille, quelques-uns auront le maillot du Portugal, d'autres de la France, et ça va parler jusqu'à la fin du match, et celui qui perd va se faire chambrer. Ma mère sera présente dans les tribunes, elle va faire le déplacement, donc voilà, c'est toujours un moment fort pour elle.
Comme Pires, Antoine Griezmann aurait pu jouer pour le Portugal. Son grand-père, Amaro Lopes, était footballeur professionnel à Passos de Ferreira, dans le nord du pays. Les passerelles entre les deux pays ont d'ailleurs offert des binationaux au maillot bleu, comme Corentin Martins ou Kevin Gamero, mais aussi l'inverse, l'exemple actuel le plus connu étant le gardien lyonnais Anthony Lopes, international portugais. Tous demain soir espèrent un résultat qui qualifierait les deux équipes, ce qui est tout à fait possible, et ouvrirait la voie, qui sait, à une nouvelle finale après celle victorieuse des coéquipiers de Cristiano Ronaldo en 2016 au Stade de France.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. 3 autres pays se sont qualifiés hier soir, Pierre, les Pays-Bas, l'Autriche et la Belgique. La Belgique qui a battu la Finlande 2-0.
Merci, c'était le journal de Lionel Gougelot, journal de l'Euro tout à l'heure à 8h30.